Pour ce 17e radiobarque de notre saison, Didier Mouly, restons encore un petit peu sur la ville de Narbonne, si vous le voulez bien. Une ville qui vous est chère quand même,
oui.
Forcément. Un petit mot sur alors le futur crématorium. Je crois que ça y est, c'est sur les rails.
C'est plus que sur les rails. La ville a la compétence pour réaliser un crématorium. Il n'y avait pas d'exclusivité au sein du Grand Narbonne pour le faire. La ville peut réaliser un crématorium et réalisera un crématorium. Il s'était posé le choix de faire soit en régie, c'est-à-dire la ville elle-même, soit transférer ça à un privé. Et le choix avait été déjà voté de dire ça sera un privé qui le gérera.
En délégation de service public.
En délégation de service public. Je ne voulais pas mettre trop de consonances administratives sur cet entretien. Mais la procédure a été un petit peu longue dans le choix parce qu'on voulait avoir des certitudes sur certains points, notamment sur les tarifs et sur les contreparties versées à la ville. Ça y est, c'est fait, c'est passé en conseil municipal. La société Funecap a été choisie pour réaliser ce crématorium. Il sera sur le chemin de Saint-Cressant, c'est-à-dire à côté du golfe et de l'Istation, dans un domaine propriété de la ville, où un bâti de type très languedocien sera aménagé dans les meilleures conditions.
Domaine qui s'appelle Sainte-Rose.
C'est en face Sainte-Rose, toute la zone qui... Sainte-Rose, c'est l'ancienne usine de déchets de la ville de Narbonne, c'est de l'autre côté en face, c'est au bord du golfe. C'est en réalité Saint-Victor, c'est toute la zone de Saint-Victor que le chemin de Saint-Cressant traverse.
Voilà, donc même si on vous a reproché de l'enlever au Grand Narbonne, parce que forcément il n'y a pas de construction sans polémique malheureusement, mais c'est bien parti, c'est sur, plus que sur les rails, c'est une entreprise du Nord, je crois, qui a son siège.
C'est une société française, pas spécialement, je pense, plus investie dans le Nord ou ailleurs. C'est une société à rayonnement national. C'est Funecap qui a été retenue par le conseil municipal.
Alors, à propos de construction et d'urbanisme, on sait qu'il y a un lotissement nouveau sur ce qu'on appelle la route de Cuxac, ou l'ancienne route de Cuxac. Quelle est la dénomination exacte ?
La dénomination exacte aujourd'hui... De fait, c'est l'ancienne route de Cuxac, mais cette avenue qui va être une des entrées importantes pour Narbonne, puisque le département a rétrocédé cette route à la ville de Narbonne, sera automatiquement baptisée dans le cadre d'une avenue en un ou plusieurs noms, puisqu'elle est assez longue. Vous parlez de ce lotissement qui est situé sur l'ancienne distillerie de Sainte-Louise et qui s'appelle le lotissement de la Pléiade, avec des noms de rues qui, bien entendu, concernent la constellation et
la Pléiade. Ça fera plaisir aux libraires.
Par exemple.
Voilà. Et alors, c'est un quartier qui est aujourd'hui relativement enclavé. Il est prévu, je crois, une passerelle piétonne au-dessus de la voie ferrée.
Enclavé parce qu'il a d'un côté le canal de la Robine, cette ancienne route de Cuxac et la voie ferrée. Et il est prévu dans le plan d'aménagement qu'effectivement, il y a un déplacement doux par le biais d'une passerelle située au milieu à peu près du lotissement, là où il y aura un rond-point, il y a un emplacement réservé. Et de l'autre côté, c'est sur l'avenue Carnot, c'est à hauteur
de la boulangerie, le moulin de chez Gilles,
où on retrouvera la possibilité d'aménager. La ville va créer des emplacements réservés en cas de démolition, de vente, pardon, des immeubles, pour pouvoir démolir et faire une belle place. Ça va prendre du temps, parce qu'il va falloir travailler avec la SNCF, et c'est toujours très long avec la SNCF. Regardez pour le pôle d'échange multimodal, regardez pour la gare routière, c'est très très long de travailler.
Et le pont de Carcassonne.
Et ne parlons pas du pont de Carcassonne, c'est encore plus long puisqu'il faut trouver des fenêtres de passage. J'espère qu'on lancera prochainement ce projet de passerelle pour que l'ensemble des habitants puissent se rendre dans la ville de Narbonne sans se croire exclus ou éloigné par un passage qui se ferait par le bord de la Robine pour arriver jusqu'à Saint-Pré.
À propos de construction aussi, il a été évoqué, mais alors je dis uniquement évoqué, la construction d'un nouveau stade, pas forcément sur Narbonne, mais dans le Grand Narbonne. C'est apparemment le Racing qui demandait ça, le club.
Le Racing l'a demandé depuis plusieurs présidences, ça a été évoqué. Et effectivement, dans la campagne électorale, j'ai annoncé que je soutiendrais le projet de réalisation d'un stade sur la Narbonnaise. Fort de ce projet, de cette volonté de le réaliser, je me suis rendu compte que les maires de nos différentes communes ne le souhaitent pas. S'il n'y a pas de mal à revenir sur ce qu'on a annoncé, dans la mesure où il n'y a pas un consensus des communes pour le réaliser sur l'une ou l'autre des communes.
Le financement aurait quand même peut-être posé un problème.
Il y a un problème de financement parce que ce n'est pas donné de réaliser une telle infrastructure. Il faut d'abord les terrains, ensuite il faut le projet, et en plus il faut la réalisation. Ça serait sur du long terme et ça aurait un coût effectivement important.
Et pour que ça soit crédible, il faudrait peut-être que le Racing soit plus aussi dans une phase positive.
Oui, donc, s'il était dédié
au niveau attractivité.
Oui, j'entends bien s'il était dédié au Racing et qu'au Racing. Oui, mais en réalité, aujourd'hui, des réalisations sportives doivent permettre d'y faire plusieurs sports et plusieurs attractions, puisqu'on s'aperçoit que, si on prend l'exemple du Stade de France, il y a des activités autres que le sport et autres qu'un sport dédié. Donc il faut aller le travailler en ce sens-là.
Ouais. Mais
le parc des sports et de l'amitié.
Oui, le stade actuel correspond relativement à ce créneau.
Le parc des sports et de l'amitié correspond tout à fait à ce créneau, puisqu'il est multisport, multi-activité. Je pense simplement qu'il faut travailler sur une revitalisation de cet ensemble. Deux parties, la partie autre que l'enceinte sportive pure, tout ce qu'il y a comme aménagement dans de part des sports de l'amitié, donner des couleurs à ce part des sports de l'amitié, qui est un peu terne depuis 1993, et ensuite sur la partie sportive elle-même, l'enceinte du stade, bien là aussi travailler dessus sur une mise en conformité avec ce qu'attendent aujourd'hui les activités sportives, puisqu'il faut qu'il y ait du réceptif, du partenariat avec des entreprises. Oui, le travail en ce sens. Donc deux audits vont être lancés. Un audit sur l'ensemble du parc des sports et de l'amitié au milieu de la ville, parce qu'il est en ville aujourd'hui, ce parc des sports et de l'amitié. Et en même temps, un audit sur quels travaux réalisés sur l'enceinte elle-même pour que ça soit plus attractif dans le cadre de partenariats économiques.
C'est ça, des structures d'accueil pour les sponsors, grosso modo.
Exactement, c'est cela, des loges, des lieux de réception, comme cela se fait dans la plupart des stades.
Il y avait une mise en conformité, je crois, des tribunes récemment.
Elle a été faite, puisque pendant 2 ans, 1 million d'euros ont été investis pour permettre l'homologation de ce stade aux règles actuelles et permettre ainsi son homologation à une capacité de 10 000 spectateurs.
Voilà. Donc soyons clairs, pour rassurer les Narbonnais, aujourd'hui la ville a un stade et il est opérationnel.
Tout à fait.
Alors Didier Mouly, passons à votre autre casquette, celle de président du Grand Narbonne, je l'évoquais tout à l'heure. C'était nouveau pour vous. Au bout de quelques mois, j'imagine que vous commencez à vous y retrouver, même si c'est complexe et une agglomération aujourd'hui, parce qu'il y a une foule de compétences.
Je pense que la population ne se rend pas compte de l'importance d'une agglomération, une communauté d'agglomération. Plusieurs communes sont rassemblées pour 30, mettre
37
ensemble,
pour nous
37, pour mettre ensemble des compétences qui vont permettre de les rendre beaucoup plus intéressantes et attractives. Les déchets, que ce soit les déchets ménagers, que ce soit les déchets organiques, on voit que l'agglomération est plus puissante financièrement pour aller de l'avant, pour moderniser l'ensemble du traitement des déchets, que si c'était simplement une commune qui devait le faire pour sa commune.
Alors parmi les compétences, on ne les citera pas toutes, mais il y en a une par exemple qui peut surprendre, c'est l'agriculture. Non seulement c'est une compétence, mais il y a un projet très concret qui est en train d'aboutir, c'est encourager des zones de maraîchage autour de la ville. Et il y a un domaine qui s'appelle le Ribairot, ou le Ribeiro en français, route de Cuxac je crois, par là, qui est en train de démarrer.
C'est une compétence dans le cadre de l'économie. Il y a une compétence agricole dans le cadre de l'économie. Cette compétence agricole, c'est la lutte contre les friches agricoles, c'est la forestation, c'est l'agriculture de proximité, c'est le maraîchage, c'est en lien direct avec le traitement de l'eau. puisque par le biais de cette double délégation qui est à la fois le traitement de l'eau, le grand cycle de l'eau et à la fois l'agriculture, on va pouvoir, à partir des stations d'épuration, irriguer certaines zones agricoles ou permettre au maraîchage d'avoir de l'eau sans contraindre la nappe phréatique ou nos canaux ou rivières. Le domaine de Ribeyrotte, c'est une des expériences sur laquelle le Grand Narbonne travaille. C'est comme les 14 hectares derrière l'espace de liberté, où là aussi, il va y avoir des jardins familiaux. Ribeyrotte, c'est à l'angle de la route de Cuxac et de la Rocade. Il y a ce domaine qui a été réhabilité au niveau des terres et qui fera l'objet de réhabilitation au niveau des bâtiments, où déjà deux agriculteurs, on peut aller jusqu'à sept, vont à travers du maraîchage, à travers de la culture agricole, pouvoir travailler, apprendre le métier. C'est une pépinière d'entreprise agricole, si vous voulez l'image. Apprendre à travailler et vivre du produit de leur travail en vendant sur site leur récolte. Sur les 14 hectares qui sont derrière l'espace des libertés, autour du Rec de Veyret, c'est un petit peu le même principe. Culture maraîchère par des professionnels, en bio bien entendu, et en même temps, jardins familiaux bio, avec la sécurité que l'on va avoir dans la terre et dans l'utilisation de l'eau, à partir très certainement des énergies douces comme le vent.
Oui, alors le consommer local est tout à fait dans son élément.
Ça existe, mais c'est à développer et à faire mieux connaître.
Un autre point qui aujourd'hui est une compétence de l'agglomération, de communautaire, c'est le logement social, les HLM pour faire simple. Alors lors d'un récent conseil, l'opposition, mais c'est son rôle, vous avez reproché d'envisager une fusion ou un regroupement avec des Tarnais, des gens du département du Tarn, plutôt que des Audois. Pouvez-vous expliquer en quelques mots, Didier Moulin ?
Au 15 juillet 2020, il fallait signer à tout prix une fusion-absorption par le département.
Ça, c'est la loi qui l'imposait ?
Pas du tout.
Non ?
Pas du tout. Ah. La loi impose qu'au plus tard, le 31 décembre 2021, il y ait un regroupement des bailleurs privés et sociaux qui est une certaine capacité de lots leur permettant d'exister. 12 000 lots dans un premier temps. Le département a comme bailleur social Habitat Audois. L'agglomération a comme bailleur social Domitia. Ce sont deux bailleurs sociaux publics. Ce sont les deux seuls bailleurs sociaux publics du département de l'Aude. Quand nous avons été élus, l'ensemble de l'exécutif du Grand Narbonne, on nous a dit il faut signer à tout prix une fusion-absorption par le département de Domitia Habitat. Sincèrement, pourquoi ? Le département n'a pas la puissance du logement social. L'agglomération doit elle aussi accompagner ses habitants qui arrivent ou qui sont déjà là dans un logement social qu'elle souhaite maîtriser, que ce soit le privé, que ce soit le public. Le privé s'est associé avec qui il voulait, mais le public, il fallait qu'on ait notre mot à dire. Or, Domitia Habitat disparaissait de la carte des bailleurs sociaux. Le personnel était soit remercié, soit remis en question. Le Grand Narbonne n'avait plus son mot à dire. Il était minoritaire de chez minoritaire. Il représentait qu'un tiers de cette fusion-absorption. Et il n'y avait pas d'urgence de signer. Donc il a été fait un autre choix. C'est de garder l'autonomie et l'indépendance de Domitia Habitat et de se regrouper, il n'y a pas du tout de fusion-absorption, de se regrouper avec d'autres bailleurs, privés et publics, castres en public et patrimoine en privé, pour former une société qui réponde aux exigences de la loi.
Voilà, mais Didier Mouly, on marque une seconde pause. Merci de ces explications. Pour des choses qui sont assez complexes, mais tellement utiles, le logement social, on se retrouve pour une troisième partie.
Merci encore, Jean-Claude.